Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Retour dans votre édition sur la visite officielle du pape François à Bahreïn, une visite de 4 jours jusqu'à dimanche dernier consacrée au dialogue avec l'islam. Notre invité sera le directeur de l'œuvre d'Orient, Monseigneur Pascal Gollnisch. Un navire humanitaire allemand a accosté en Sicile avec 89 migrants à son bord, cela après l'aval des autorités italiennes. La COP27 en Égypte, la conférence sur le climat à Sharm el-Cheikh jusqu'au 16 novembre prochain. Emmanuel Macron appelle à un choc de financement avec un bouleversement des règles établies pour faire face au changement climatique dans les pays pauvres. L'Algérie dépose officiellement sa demande d'adhésion au BRICS, une organisation régionale composée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. La justice française a ouvert une enquête préliminaire visant le cardinal Jean-Pierre Ricard. Il a avoué avoir eu un comportement répréhensible envers une adolescente il y a 35 ans. L'invité de rencontre ce mardi après-midi était le trompettiste et compositeur Ibrahim Malouf, émission réalisée à l'occasion de la création mondiale de sa symphonie pour trompette et orchestre avec l'Orchestre National de France, jeudi à 20h à la Maison de la Radio. Nous écouterons Ibrahim Malouf. Elle s'est déroulée de jeudi à dimanche dernier, la visite officielle du pape François à Bahreïn, une visite de 4 jours, déplacement consacré en particulier au dialogue avec l'islam. Sur cette visite officielle, entretien avec le directeur de l'œuvre d'Orient, Monseigneur Pascal Gollnisch.
C'est vrai que c'est une visite historique, car c'est la première dans ce royaume. Mais ce qui est historique également, c'est la continuité des rencontres du pape François avec des responsables musulmans dans des royaumes à majorité musulmane, dans des pays à majorité musulmane. Et je rappelle que le pape François est allé en Égypte, en Jordanie, en Palestine, en Israël, en Irak, où il a fait un voyage tout à fait remarquable, à Abu Dhabi, en Turquie, en Arménie, à Bahreïn. Donc il connaît bien quand même toute cette région du Moyen-Orient. Il n'y a que 2 pays où il n'est pas encore allé, le Liban et la Syrie. Et en particulier le Liban, il a dit à plusieurs reprises qu'il aimerait s'y rendre, mais le Liban n'a pas de président, n'a pas de gouvernement, le pape est un chef d'État, ça lui est difficile d'y aller dans ces conditions. Donc ce voyage à Bahreïn est à la fois important parce que c'est le premier dans ce royaume, mais il est également important parce qu'il souligne une continuité, je dirais que la persévérance du pape François, sa ténacité à nourrir ces rencontres, à nourrir ce dialogue et à œuvrer pour la paix est tout à fait impressionnant.
Vous évoquez le regard du pape François sur la situation au Liban, un regard très attentif. Le pape François qui s'est d'ailleurs exprimé sur la situation de ce pays lors de son retour au Vatican.
Oui, en effet, d'abord parce qu'il y a beaucoup de Libanais qui travaille dans les pays du Golfe. Vous savez, il y a un peu 2 diasporas libanaises. Il y en a une dans les pays qu'on peut appeler occidentaux et une autre dans les pays du Golfe. Donc il y avait beaucoup de fidèles libanais aux liturgies qu'il a pu célébrer durant son voyage. Et il a appelé avec force les responsables politiques à dépasser la question de leurs intérêts personnels pour mettre en œuvre des décisions, une politique qui soit au service de la population. C'est évidemment ce qu'attend la population libanaise, mais c'est particulièrement affligeant de voir que ce pays qui est en très grande difficulté, est incapable de se doter d'autorités publiques pour précisément qu'on puisse aider le Liban. Mais comment aider le Liban sans gouvernement, sans président?
Le pontificat du pape François est très fortement marqué par l'intensité de ce dialogue islamo-chrétien. Est-ce que vous pouvez nous faire part de l'évolution de ce dialogue, de cette relation au cours des années de ce pontificat?
Oui, là aussi, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une histoire. Hein. Je vous rappelle le texte presque initiateur de Vatican II sur les relations entre chrétiens et musulmans. Et à partir de là, tout le travail qui a été fait par ce qu'on appelle le secrétariat pour les relations avec les non-chrétiens. Donc il y a eu toute une histoire, tout un travail formidable, et on ne peut pas non plus ne pas oublier la rencontre du pape Jean-Paul au Maroc, du pape Jean-Paul II au Maroc, qui a été aussi quelque chose de très fort, de sa rencontre avec la jeunesse marocaine. Vous voyez, il y a une histoire qui sous-tend cette magnifique rencontre. Alors, le pape François souhaite vraiment pouvoir apporter les pierres qu'il peut apporter à ce dialogue. Cela s'est noué notamment avec le recteur de l'université d'Al-Azhar en Égypte, qu'il a retrouvé d'ailleurs à Bahreïn, mais aussi avec les musulmans chiites dans la rencontre avec l'ayatollah al-Sistani quand il est allé en Irak. Donc on voit vraiment qu'il y a cet engagement du pape qui parfois n'est pas compris, il faut qu'on soit clair, hein. Certains pensent que dans ses discours, dans ses voyages, dans sa déclaration, dans ses déclarations, comme par exemple la déclaration d'Abu Dhabi, eh bien, d'une certaine manière, il ignore les difficultés, il oublie les difficultés des chrétiens dans des sociétés à majorité musulmane, il oublie l'islamisme violent, etc. Tout ça est ridicule. Bien sûr, le pape François n'oublie rien. Mais son devoir comme pape, comme chrétien et comme pape, c'est vraiment de regarder les chemins qui peuvent s'ouvrir. Et durant ce voyage, il a été beaucoup question de l'eau. Vous savez, il y a le désert, et donc l'eau est une valeur extraordinaire. Il y a des sources au milieu des déserts où l'eau jaillit comme une source de vie. Eh bien, le pape est un guetteur qui regarde les sources de vie pour précisément faire du chemin avec les uns et les autres. Et je pense que cette persévérance porte des fruits. On voit bien que, par exemple, quand il est allé en Irak, il y avait un avant et un après. Ses voyages à Abu Dhabi puis à Bahreïn, il y aura un avant et un après. N'oublions pas qu'il est venu célébrer dans la cathédrale à Bahreïn, qui vient d'être achevé, qui est une immense église qui a plusieurs milliers de places, bien voici quelque chose de positif. Donc, je suis parfois navré de voir des gens qui pensent être les seuls à voir les choses négatives, mais qui ne proposent pas les chemins par lesquels ces choses négatives peuvent être surmontées. Le pape, il surmonte ces choses négatives pour essayer de construire. Il est parfaitement conscient, ça s'est révélé à plusieurs reprises dans son voyage, hein, des tensions qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Il l'a dit, les tensions Est-Ouest et les tensions Nord-Sud, les difficultés mondiales. Et il a fait ce voyage dans un moment particulièrement grave sur la paix dans le monde. Et bien sûr, le pape François, comme ses prédécesseurs récents, se veut un pèlerin de la paix, il l'a dit à plusieurs reprises.
C'est un voyage qui s'est déroulé juste avant l'ouverture de la conférence sur le climat, la COP27, le pape François qui est très attentif à cette problématique.
Absolument, donc il a fait des textes, des encycliques sur ce thème, et il met tout à fait en avant le fait que dans le respect de la nature, les droits de la terre en quelque sorte, que nous ne pouvons pas manipuler à notre guise sans conséquences graves, fait partie d'un tout, ce qu'il appelle l'écologie intégrale. Quand il évoque la défense de la vie, de la conception à la fin de vie, c'est tout un peu le même mouvement qui est finalement un mouvement profondément humaniste, non pas d'un humanisme qui viendrait de quelques réflexions athées, mais qui est un humanisme profondément issu de sa foi, des valeurs de l'Évangile, et qu'il peut ainsi partager avec d'autres. Parler avec des musulmans, c'est aussi s'interroger mutuellement sur ce que nous disons de la personne humaine. Il a parlé de l'éducation, de la promotion de la femme. Tout ça, ça participe finalement d'une vision humaniste extrêmement cohérente et cohérente avec l'Évangile.
Le directeur de l'œuvre d'Orient, Monseigneur Pascal Gollnisch. Un navire humanitaire allemand a accosté en Sicile avec 89 migrants à son bord, cela après l'aval des autorités italiennes. Quatre candidats à l'exil avaient été évacués dimanche pour raisons médicales. L'Ocean Viking de l'ONG européenne SOS Méditerranée ne s'est pas vu accorder pour l'instant l'entrée dans un port italien. Il naviguait ce mardi au large de Syracuse. Le bateau compte à son bord 234 rescapés. L'opération militaire française Barkhane au Sahel s'achèvera officiellement ce mercredi. Le président français présentera depuis Toulon la nouvelle revue nationale stratégique pour confirmer la fin de l'opération. L'intervention était vouée à se transformer radicalement depuis la décision de février dernier de quitter définitivement le Mali. La dernière base à Gao a été fermée en août dernier. La COP27 en Égypte, la conférence sur le climat à Sharm el-Cheikh. Le sommet des chefs d'État se tient jusqu'à ce mardi. Les pays en développement fortement représentés demandent un soutien financier beaucoup plus important aux pays développés. À la tribune de la COP27, Emmanuel Macron a appelé à un choc de financement avec un bouleversement des règles établies pour faire face au changement climatique dans les pays pauvres. Le président français.
Il y a aujourd'hui une confiance qui est en train de s'effriter, pour ne pas dire davantage, entre le Nord et le Sud. Et ce que j'ai dit il y a quelques semaines à la tribune des Nations Unies pour dire qu'il nous fallait éviter cette grande division du monde sur le sujet de la guerre est tout aussi vrai sur le sujet du climat. Au fond, beaucoup de pays nous entendent parler de 100 milliards depuis Copenhague et se disent « on ne voit pas l'argent arriver ». Nous devons aller au bout de la solidarité financière. On est à 82 milliards d'engagés. On doit, dans les tout prochains mois, aller aux 100 milliards, aider à convaincre les derniers pays riches qui n'ont pas pris tous leurs engagements. Mais surtout, on doit débourser beaucoup plus vite et trouver des mécanismes, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, pour être au rendez-vous de ces décaissements pour que cet argent arrive vers le Grand Sud. Sinon, la confiance s'effondrera. Et donc, les 100 milliards très vite, on n'est qu'à 82, mais surtout la réalité sur le terrain beaucoup plus vite encore pour être au rendez-vous.
Le président français Emmanuel Macron à la tribune de la COP27. 30 chefs d'État et de gouvernement ont confirmé leur participation aux travaux du 18e sommet de la francophonie en Tunisie. Une réunion internationale prévue les 19 et 20 novembre sur l'île de Djerba. Et ce nombre sera probablement revu à la hausse compte tenu du nombre des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. 88 pays font partie de cette organisation francophone. L'Algérie dépose officiellement sa demande d'adhésion au BRICS, une organisation régionale composée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Le chef de l'État algérien, Abdelmadjid Tebboune, a récemment affirmé que l'adhésion au BRICS était tributaire de conditions économiques auxquelles l'Algérie satisfaite en grande partie. La justice française a ouvert une enquête préliminaire visant le cardinal Jean-Pierre Ricard. Il a avoué avoir eu un comportement répréhensible envers une adolescente il y a 35 ans. L'Église a révélé ce lundi que 11 évêques à la retraite ont été mis en cause par la justice civile ou ecclésiastique pour des affaires de violence sexuelle. Parmi eux figure donc le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque émérite de Bordeaux. Il a reconnu dans une lettre avoir agressé sexuellement une mineure. L'invité de rencontre ce mardi après-midi était le trompettiste et compositeur Ibrahim Malouf. Une émission réalisée à l'occasion de la création mondiale de sa symphonie pour trompette et orchestre avec l'Orchestre National de France, jeudi à 20h à la Maison de la Radio. Ibrahim Malouf.
Il y a quelques mois, lorsque l'Orchestre National de France m'a recontacté, c'était suite à ma participation au concert du 14 juillet au Champ de Mars, où j'avais joué la Marseillaise devant, je ne sais pas si vous vous rappelez, 5 millions de personnes, et puis la télévision, etc. Donc c'était assez fou. Ils sont revenus me voir, ils m'ont dit « mais ce serait sympa qu'on fasse quelque chose avec toi ». Je dis « bah, avec grand plaisir ». Et là, je repense à cette symphonie. Et entre-temps, dans ces 20 ans qui sont passés, j'avais écrit d'autres symphonies. J'avais écrit une pièce qui s'appelle « Point 33 », qui est une énorme pièce symphonique aussi, avec chœur, avec chorale, avec orchestre symphonique. On avait fait ça avec l'ensemble orchestral de Paris, qui maintenant s'appelle l'Orchestre de Chambre de Paris. J'avais écrit une autre pièce qui s'appelle « La Levantine symphonie », que j'avais créée à Washington, qui avait été une commande de la New Levant Initiative. Bref, j'avais déjà réécrit des choses. Je me suis dit « c'est le moment de reprendre cette symphonie qui était inachevée » et de l'achever et de la terminer. Et je me suis relancé dans l'écriture et dans la finalisation de cette symphonie.
Et donc cette symphonie pour trompette et orchestre, c'est à la fois une œuvre de jeunesse et une œuvre, je dirais, de votre maturité.
Oui, et j'ai laissé du coup les petites folies de jeunesse dedans. Je ne les ai pas corrigées. Il y a des choses dans mon écriture qui ne sont pas injouables, mais qui sont pleines de je sais pas, il y a quelque chose d'un peu furieux dedans. Je sais, quand on est jeune, on est toujours un peu... comme l'adolescence, quoi. On râle un peu, on est toujours un peu furieux, on n'est pas content, on se trouve moche, etc. Donc j'ai gardé un peu cette fragilité-là, la folie qu'il y a dans cette jeunesse-là, et j'y ai aussi ajouté plus de maturité à d'autres endroits. Et j'ai laissé un peu l'écriture comme elle était. J'avais pas envie de me trahir, j'avais envie de dialoguer avec mon passé. Vous savez ces vidéos qu'on trouve parfois sur internet où on voit quelqu'un qui s'était enregistré lui-même ou elle-même il y a 20 ou 30 ans en posant des questions, et elle se répond elle-même à ses propres questions. C'est des vidéos assez intéressantes et très intenses d'ailleurs. Et ben, cette symphonie, c'est un peu ça.
Alors, le Ibrahim Malouf de la maturité, comment il juge ce jeune Ibrahim tempétueux qui osait des choses un peu difficiles?
Il y avait une forme d'inconscience. Enfin, la jeunesse, quand on rêve, on se sent invincible, on se sent plus fort que tout, on pense qu'on va conquérir le monde. Il y a cette énorme confiance et en même temps cette énorme vulnérabilité, parce qu'on sait qu'en fait on n'a rien fait et qu'on vaut peut-être rien. Donc cette vulnérabilité là, je me suis autorisé à la laisser dans la pièce, parce que c'est je pense ce qui donne aussi sa sincérité à cette démarche. Si j'avais tout corrigé, ça y est, c'est plus la symphonie que j'ai écrite à l'époque, c'est ce que j'écris aujourd'hui. Moi, j'avais envie que ce soit un vrai dialogue entre moi et ma conscience. Vous savez, souvent la conscience, la réponse qu'on a, les réponses qu'on a aux questions existentielles, elles ne peuvent nous arriver qu'à travers le temps. C'est impossible de répondre à certaines questions quand on a 20 ou 25 ans. C'est même pas possible d'imaginer d'essayer d'y répondre. Ce serait même plutôt impossible, enfin, il y a quelque chose même de malsain d'essayer de répondre à des questions alors qu'on n'a même pas cette expérience-là. Et quand on arrive à un certain âge, à 40, 50, etc., on a ces réponses parce qu'on a expérimenté des choses, parce qu'on a vécu, en fait.
Le trompettiste et compositeur Ibrahim Malouf, il est l'invité de Rencontre cet après-midi, émission rediffusée ce mercredi à 10h, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.